Frères et sœurs, bonjour. Que Dieu nous fasse grâce tous. Je vous propose de retourner dans ce livre de Daniel. Et nous verrons le chapitre 6 aujourd'hui. Ce chapitre 6 est l'un des récits, on peut dire, les plus connus de la Bible. Si vous êtes dans l'Église assez longtemps, c'est une histoire que vous avez peut-être entendue dans votre enfance, ou alors au début de votre conversion. Et un prédicateur disait justement à ce titre que le récit de ce chapitre 6, de Daniel, est potentiellement l'un des plus dangereux du livre. Et cela pour plusieurs raisons. Il soulignait que la première raison pour laquelle ce chapitre peut être dangereux, c'est parce que c'est une histoire tellement connue seulement nous, qu'on arrive parfois à remplir des blancs, à dire ce que l'histoire ne dit pas. Et c'est souvent comme ça lorsque nous connaissons bien une histoire dans la Bible. Parfois nous lui faisons dire des choses qu'elle ne dit pas, tout simplement. Une autre raison pour laquelle le texte peut être dangereux, c'est parce qu'elle peut être prise comme base d'une justification par les œuvres. Il est tellement facile pour nous d'aller parcourir ce livre et puis de dire, « Eh bien, Daniel, dans ces circonstances-là, il a fait ça. Nous n'avons qu'à faire comme Daniel. Et tout ira bien. » Nous serons justifiés de cette manière-là. Parce qu'après tout, le livre nous montre bien l'exemple de Daniel qui surmonte ses difficultés, qui nous montre comment Daniel vit, a vécu pendant toutes ces années qu'il a été en Babylone. Et si vous avez été ici les quelques semaines passées, vous devriez secouer la tête en disant que ce n'est pas ça que raconte le livre de Daniel. Ce n'est pas pour cela que l'auteur a décidé d'écrire ce livre-là. Le livre de Daniel n'est pas là pour nous dire qu'il faut arriver au niveau de la foi de Daniel. Il y a bien plus dans ce texte-là. Bien plus dans ce texte-là. Aujourd'hui, nous allons rester sur la première partie, à partir du verset 1 jusqu'au verset 13. Et nous parlons de la fidélité qui honore Dieu. La fidélité qui honore Dieu. Je vous propose de lire des versets 1 à 13. Darius, alors, petite précision, certaines versions, j'ai noté, commencent le chapitre avec l'accession de Darius au trône, et d'autres le font commencer au deuxième verset pour certains. Mais ne soyez pas troublés par ça. Moi, je commence à lire en disant « Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur et le roi pensait à l'établir sur tout le royaume. Jusque-là, tout va bien. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concerne les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, Nous ne trouvons aucune occasion contre Daniel, à moins que nous trouvions une dans la loi de son Dieu. Puis ses chefs et ses satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi et lui parlèrent ainsi. « Roi Darius vit éternellement. » Tous les chefs du royaume, les intendants, les satrapes, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis qu'il soit publié un édit royal avec une défense sévère, portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adressera des prières à quelque dieu ou à quelque homme, excepté à toi, ô roi, serait jeté dans la fosse aux lions. Maintenant, ô roi, confirme la défense et écris le décret, afin qu'il soit irrévocable selon la loi des Mèdes et des Perses, qui est immuable. Là-dessus, le roi Darius écrit le décret et la défense. Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et trois fois par jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu, comme il le faisait auparavant. Rien n'a changé. Alors ces hommes entrèrent tumultueusement et ils trouvèrent Daniel qui priait et invoquait son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui dirent au sujet de la défense royale, « N'as-tu pas écrit une défense portant que quiconque, dans l'espace de 30 jours, adresserait des prières à quelque dieu ou quelque homme, excepté à toi, au roi, serait jeté dans la fosse aux lions ?» Le roi répondit, « La chose est certaine, selon la loi des Perses et des Mèdes, qui est immuable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent, « Au roi, Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi, au roi, ni la défense que tu as écrite, et il fait sa prière trois fois par jour. » Jusque-là, notre lecture. Dans ce chapitre 6, Daniel n'est plus le jeune Daniel qu'on a rencontré au chapitre 1. Entre ce chapitre 1 et le chapitre 6, environ 70 ans se sont écoulés. Donc à ce moment-là, Daniel, c'est un vieux bonhomme. Un bonhomme qui est dans sa 80e année, voire plus. Il était d'abord au service de Nebuchadnezzar, nous l'avons vu, un homme dur, dominant tout l'empire babylonien. Un homme qui a été humilié par Dieu, vous vous rappelez, hein, parce qu'il s'est exalté en pensant que c'est de ses propres forces qu'il a eu tout cet empire. Et Dieu lui a dit, ben écoute, va être humilié. Il a passé 7 ans dans les champs à vagabonder comme un animal mangeant de l'herbe. Et après quoi, le texte nous dit qu'il a levé les yeux vers le ciel, reconnaissant que Dieu est le créateur de l'univers, que Dieu est au-dessus de tous les royaumes, de tous les rois. Il a été rétabli dans son bon sens. Il a été remis à la tête de son empire. Dieu est capable de faire ça. Ensuite, on ne nous dit pas quand, mais Nebuchadnezzar est décédé. Se sont suivis d'autres règnes après lui, d'autres rois. Ensuite est venu Belshazzar, son petit-fils, qui a été renversé par les Mèdes. Et Darius, le roi Mède, prend sa place. Mais pendant tout ce temps-là, avec des changements de roi, des changements d'administration, il y a quelque chose qui n'a pas bougé, qui n'a pas changé. Daniel, il est toujours là. Daniel qui, malgré sa condition d'exilé dans un pays qui lui est étranger, Babylone, captif en exil, hein? Ben, sa situation nous rappelle que Dieu est fidèle à son peuple, parce qu'il est encore là. Et que même si son peuple se détourne de lui, même si son peuple désobéit, Dieu reste fidèle à son peuple. Et en fait, l'histoire de Daniel montre ça, montre la fidélité de Dieu envers son peuple, même dans les circonstances difficiles qu'ils peuvent rencontrer. Dieu reste fidèle. Dans le chapitre 5, Daniel était appelé par son nom babylonien, Belshazzar. Encore et encore, on l'appelait Belshazzar. Là, les Babyloniens ne sont plus au pouvoir et de nouveau, on l'appelle Daniel. Dieu est capable de faire ça aussi. Et c'est un point important à noter parce que les Babyloniens ont essayé de faire de lui un Babylonien. Les Babyloniens ont essayé de faire en sorte de l'éduquer à la babylonienne, de lui inculquer tous les principes, toutes les coutumes de la Babylone. On lui a imposé un régime alimentaire qu'il a refusé, bien sûr, pour qu'il soit babylonien. On lui a donné une nouvelle vocation pour qu'il soit babylonien. On lui a donné des instructions pour qu'il soit babylonien. Il a dû apprendre la langue perse pour être babylonien. Et vous savez quoi? Jamais Daniel n'a été babylonien, même s'il a vécu 70 ans à Babylone. Maintenant, les Babyloniens sont partis. Ce sont les Mèdes qui gouvernent. Et Daniel est toujours là. On ne l'appelle plus Belshazzar, mais Daniel. Parce que Daniel n'est pas babylonien. Daniel est judéen. Et cela, c'est la fidélité qui honore Dieu. Il y a plusieurs choses qu'il nous faut voir aussi dans ce texte-là. D'abord, le fait que la fidélité qui honore Dieu est une bénédiction non seulement pour le peuple de Dieu, mais pour tout le royaume des hommes. Et même des royaumes qui ne sont pas fidèles à Dieu. La fidélité à Dieu n'est pas seulement une bénédiction pour son peuple. Lorsque nous sommes fidèles, nous ne sommes pas les seuls à être bénis. Nos familles ne sont pas les seules à être bénies. Mais même un patron méchant pour lequel nous travaillons peut être béni parce que Dieu est fidèle. Lisons les quatre premiers versets encore. Darius trouva bon d'établir sur le royaume ses 20 satrapes, ou 120 satrapes plutôt, qui devaient être dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ses satrapes lui rendent compte et que le roi ne souffre aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait un esprit supérieur en lui. Et le roi pensait même à l'établir sur tout le royaume. Et vous savez quoi? Les chefs n'étaient pas contents, les satrapes non plus. Alors ils cherchaient une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à reprendre, parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute, ni rien de mauvais. Un bel exemple de fidélité dans la vie de Daniel. Je ne sais pas quelle image vous avez de lui, mais clairement, Daniel n'était pas un missionnaire, Daniel n'était pas un pasteur, Daniel n'était pas prêtre, Daniel n'était pas une personne chargée d'un ministère particulier à Jérusalem. Et pourtant, Dieu se plaît en lui. Dieu se plaît à lui accorder sa faveur. Daniel était un simple croyant. Il est à Babylone, il n'est pas à Jérusalem, dans la terre promise, et pourtant, Dieu se plaît à être fidèle envers lui. Et Dieu se plaît à sa fidélité à lui. Daniel, il est en exil, servant un roi qui ne connaît pas Dieu. Et pourtant, sa fidélité plaît à Dieu. Il avait servi l'Empire babylonien pendant un certain temps. Et là, il sert l'Empire perse. Et Dieu continue à prendre plaisir en lui. Quel bonheur si on pouvait dire ça de nous. Quel bonheur si les enfants de Dieu que nous sommes pouvaient avoir ce même témoignage sur nos lieux de travail, sur ou dans nos écoles, dans notre voisinage, dans notre foyer, auprès de nos époux, auprès de nos épouses. Des lieux qui, à première vue, n'ont rien à voir avec un quelconque ministère pour Dieu. Mais pourtant, pour Daniel, Dieu manifeste sa fidélité à son égard. En même temps, Daniel mène cette vie parce qu'il a été enseigné de cette manière. Comment je le sais? Mais lisons Jérémie, chapitre 29, tiens. Jérémie 29, 1 à 7. Jérémie 29, 1 à 7. Alors, il y a eu une lettre écrite de Jérusalem et qui a été envoyée aux exilés de Babylone. Voici ce qu'il nous est dit. Voici le contenu de la lettre que Jérémie, le prophète, envoya de Jérusalem au reste des anciens, en captivité, aux sacrificateurs, aux prophètes et à tout le peuple que Nabucodonosor avait emmené captif de Jérusalem à Babylone, après que le roi Jéconia, la reine, les eunuques, les chefs de Juda et de Jérusalem, les charpentiers, les serruriens, furent sortis de Jérusalem. Il l'a remis à Éléazar, fils de Shaphan, et à Gemaria, fils de Hilkiah, envoyé à Babylone par Sédécias, roi de Juda, auprès de Nabucodonosor, roi de Babylone. Elle était ainsi conçue. Donc voici ce que disait la lettre. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, à tous les captifs que j'ai emmenés de Jérusalem à Babylone. Bâtissez des maisons et habitez ou habitez-les. Plantez des jardins, mangez-en les fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils. Donnez en mariage vos fils ou vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. Priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. Par le biais du prophète Jérémie, Dieu demande à Daniel et aux autres exilés, bien sûr, de veiller et de prier pour le pays dans lequel ils étaient en exil. Et Daniel a fait exactement ça. En lisant la lettre, moi je me suis dit, c'est un petit peu gonflé quand même. Imaginez, par exemple, des Juifs emmenés dans les camps de concentration en Allemagne pour être exterminés. Ils reçoivent comme lettre de prier pour les Allemands, de prier pour que le pays prospère. dur à faire. Mais Daniel a fait exactement ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qui se passe dans ces premiers versets. Un nouveau roi arrive à Babylone, Darius. Il ne connaît pas Daniel. Pourtant, il décide de diviser son empire en 120 satrapies, on dit. Hein. Imaginons que ce sont des départements, donc divise la France en 120 départements. 120 satrapies. Et il installe 120 gouverneurs. Et au-dessus de ces 120 gouverneurs, il installe 3 ministres. Et l'un de ces 3 ministres, c'est Daniel. Quel pouvoir! Quelle position! Daniel, c'est l'un de ces 3 ministres. Mais du coup, ça a fait des jaloux. Certains n'étaient pas contents. Bien plus, le roi songeait même à mettre Daniel à la tête de tout le royaume. Ça veut dire au-dessus des 2 autres chefs, des 2 autres ministres. Tout ça parce que Daniel a obéi à la parole de Dieu. Il avait veillé, prié pour les intérêts du royaume dans lequel il était en exil. Daniel était bien au service de l'empire perse et des Mèdes. Et vous savez quoi? Daniel n'essayait pas de transformer le pays, hein. Il n'essayait pas de transformer le système. Il ne disait pas, avant que je m'y installe, que je me sente bien, je vais essayer de christianiser le pays. Bon, à l'époque, c'était judaïsé. Pour que ça ressemble mieux à ce qu'on pourrait attendre d'un pays qui sert Dieu. Non, il n'a pas dit ça. Hein. Et je ne suis même pas sûr que Daniel s'inquiétait ou s'occupait du bien-être des Juifs en exil comme lui. Ce que Daniel s'est attaché à faire, c'est de veiller aux intérêts du pays dans lequel il était exilé. Il faisait tous ses efforts pour ça. Verset 3. Tous ses efforts étaient concentrés sur ça. Et Dieu a honoré la fidélité de Daniel. Frères et sœurs, la parole de Dieu nous fait comprendre que nous aussi, nous sommes des exilés sur terre. Nous aussi, nous sommes des pèlerins, des gens qui passons. Ici, ce n'est pas chez nous. C'est la parole de Dieu qui le dit. Nous sommes dans le monde, comme le dit l'apôtre, mais nous ne sommes pas du monde. Alors que faire dans une telle situation? Comment vivre cet exil, ce pèlerinage, on peut dire? Tout simplement en nous montrant ou en étant fidèles là où Dieu nous place. En étant fidèles là où nous sommes présentement. Alors, je sais bien qu'il y a toutes sortes de situations. Imaginez que vous êtes dans un poste, un travail où on vous fait voir des vertes et des pas mûres. Le patron est dur. La première réaction serait de « Écoute, rien ne me lie au monsieur. Bon, j'ai juste un contrat, c'est un CDI, voilà. Je peux très bien trouver un autre patron, donc je donne ma démission et je trouve autre chose. » Voilà. Et c'est bon, c'est bouclé. On peut faire ça, oui. On peut décider autrement. On peut décider d'être fidèle à Dieu là où nous sommes, avec ce méchant patron. Parce que Dieu ne nous avait pas dit que nous aurions toujours de bons patrons. nous a surtout dit d'aimer ceux qui vous maltraitent. Aimez vos ennemis. Chose qui n'est pas tout le temps facile. Si vous travaillez chez EDF et que vous avez un poste assez important à EDF, il ne vous est pas demandé de faire d'EDF une entreprise chrétienne pour qu'elle soit fidèle à Dieu. Quelqu'un travaille chez EDF là? Non? La fidélité à Dieu dans son travail, ou dans ton travail chez EDF, peut simplement vouloir dire travailler aux intérêts d'EDF. La fidélité qui honore Dieu est une bénédiction au royaume des hommes. Les Écritures nous disent que les hommes ont été faits à l'image de Dieu. Et à cause de cela, si nous faisons du bien aux hommes, eh bien, nous faisons du bien à Dieu. Si vous le faites à l'un de mes plus petits, c'est à moi que vous le faites également. Deuxièmement, la fidélité qui honore Dieu est le fruit de la vraie religion. Au verset 6, il est dit, « Et ces hommes dirent, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, à moins que nous n'en trouvions une dans la loi de son Dieu. » C'est le seul moyen avec Daniel. Ah, il est trop bon, trop fidèle. Vous avez vu comment il gère bien son boulot, même qu'on pense à lui accorder des promotions, on ne va rien pouvoir faire. Notons que dans le verset 4, par exemple, le but des satrapes et des autres ministres était de trouver un moyen pour que Darius ne puisse pas élever Daniel au plus haut poste dans le royaume des Mèdes et des Perses. Ce n'est pas l'un d'entre nous. On ne veut pas de lui. Il ne faudrait pas qu'il ait ce poste. Eh bien, trouvons quelque chose contre lui. Bon, les gars, qu'avez-vous trouvé? Ben rien. Il fait tout bon. Il n'y a rien à dire sur son comportement, sur son travail. Alors, comment l'atteindre? Ben, il faut trouver quelque chose qui sera en rapport avec son Dieu, les lois de son Dieu. Et là, on l'aura. Alors, les bonhommes, ils ont échafaudé un complot contre Daniel. Daniel obéissait à la loi de Dieu et ses détracteurs savaient qu'il obéissait à la loi de son Dieu. Les satrapes savaient aussi que Daniel était fidèle au roi. Et donc, aucune chance de trouver quelque chose à ce niveau-là. Mais Daniel, lui, n'allait pas non plus se détourner de la loi, ni de son Dieu, ni du roi. Alors, il fallait trouver quelque chose. Et on peut dire que ça, c'est de la soumission quand même, hein, à l'autorité. Même si on ne le dit pas, mais Darius, c'était pas un gentil roi. C'était comme Nabucodonosor. Hein. C'était pas des gentils rois. Hein. C'était des gars qui, si vous parliez mal, vous étiez sûr d'aller à la fosse aux lions. Et pourtant, Daniel se soumettait à cette autorité. Même s'il n'aimait pas cette autorité, il va quand même s'y soumettre. Parce que c'est l'autorité que Dieu a placée au-dessus de lui, au-dessus de sa vie. Sauf si l'autorité interdit ce que Dieu a commandé, ou si elle autorise ce que Dieu a interdit. Et là, les choses changent. Et c'est ce qui va arriver. Daniel n'est pas seulement attaché à la loi de Dieu, c'est aussi un homme qui se montre dépendant de Dieu. par son attachement à la prière. Dans les versets 6 à 9, les fonctionnaires conspirent contre lui et ils obtiennent du roi qu'il signe un document interdisant la prière adressée à une divinité ou à un homme autre que le roi durant 30 jours. C'est pas mesquin, ça? Et comment Daniel réagit à cela? Verset 10. Mais lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Et trois fois par jour, il se mettait à genoux. Il priait et il louait Dieu, comme il le faisait auparavant. Vous vous rendez compte? Daniel découvre qu'il y a un décret, une loi, contre la prière d'une autre personne que le roi. Et la première chose qu'il fait, c'est de se rendre chez lui, d'ouvrir les portes, les fenêtres de sa chambre, et il fait exactement ce que la loi dit de ne pas faire. Prier son Dieu, et pas le roi. Et ça nous dit aussi quelque chose sur la pratique de Daniel. La pratique de prière de Daniel. Daniel priait trois fois par jour. Bon, je dis que ce n'est pas un commandement. La Bible ne dit pas « Vous devez prier trois fois par jour ». Mais Daniel a choisi de prier trois fois par jour. Et il priait en direction de Jérusalem. Pourquoi fait-il ça? Parce qu'il a été enseigné à faire exactement ça. Comment nous le savons? Deutéronome chapitre 6, versets 36 à 39. Deutéronome chapitre 6, versets 36 à 39. C'est le roi Salomon qui prie le jour de la dédicace du temple qu'il a fait construire. Et voici ce qu'il dit dans sa prière, en parlant de son peuple. « Quand ils pécheront contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, quand tu seras irrité contre eux et que tu les livreras à l'ennemi qui les emmènera captifs dans un pays lointain ou rapproché. S'ils rentrent en eux-mêmes dans le pays où ils sont captifs, s'ils reviennent à toi et t'adressent des supplications dans le pays de leur captivité, et qu'ils disent « Nous avons péché, nous avons commis des iniquités, nous avons fait le mal », s'ils reviennent à toi de tout leur cœur et de toute leur âme, dans le pays de leur captivité où ils ont été emmenés captifs, s'ils t'adressent des prières, les regards tournés vers leur pays que tu as donné à leur père, vers la ville que tu as choisie et vers la maison que j'ai bâtie à ton nom. Exauce des cieux, du lieu de ta demeure, leurs prières et leurs supplications et fais leur droit. Pardonne à ton peuple ses péchés contre toi. » Daniel a été enseigné à faire exactement ça. Il est arrivé à Babylone jeune. 70 ans après, il fait ce qu'il a été enseigné dans son jeune âge. 70 ans après, il ouvre encore sa fenêtre en direction de Jérusalem et il prie parce qu'il a été enseigné à faire exactement ça. Daniel prie, les fenêtres ouverte. Rendez compte d'une telle fidélité. Et il est normal que les conspirateurs n'aient pu rien trouver à redire contre Daniel. Il était fidèle en tout, non seulement à son travail auprès du roi, mais aussi vis-à-vis de la loi de son Dieu. Il se trouvait fidèle en tout. Et ce qui impressionne, c'est que malgré tout son succès dans le pays de Babylone, malgré tous les postes qu'il a eus, malgré toutes les promotions qu'il a eues, Daniel n'en faisait aucun cas. La seule chose qu'il souhaitait, c'était de rentrer chez lui, à Jérusalem. Je veux rentrer à la maison. 70 ans après. Daniel n'a jamais été babylonien. 70 ans après, il veut rentrer chez lui. Combien plus pour ceux d'entre nous qui aspirons à rentrer chez nous? C'est où chez nous? Cette ville qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur, selon Hébreux chapitre 11, verset 10. C'est là chez nous. Je me rappelle, j'avais 16 ans. J'ai dit à un pasteur, si le Seigneur venait tout de suite, je lui dis, emmène-moi, vite. Il m'a dit, tu n'as que 16 ans et tu parles déjà comme ça? Écoute, si je pars et que je vais habiter avec mon père aujourd'hui, j'ai plus de soucis. Je n'ai plus de soucis. Je veux aller à la maison. Malgré toute la majesté du temple de Salomon, il y a un temple qui le rendait ridicule. C'est le temple dont Jésus parle lorsqu'il a dit « Détruisez ce temple. Et en 3 jours, je le relèverai. » La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas cherché un temple dans aucun autre lieu, nulle part ailleurs, comme le faisaient Daniel et les Juifs à son époque. Parce que figurez-vous que notre corps est le temple du Saint-Esprit, nous dit la parole de Dieu. Dieu demeure en nous. Quel privilège! Daniel est en captivité. Il cherche la direction d'une terre qu'il ne peut même pas apercevoir de ses yeux. Et le pire, c'est que jamais Daniel va pouvoir retourner dans ce pays natal. Jamais Daniel ne verra Jérusalem de son vivant. Il aura le temps de mourir à Babylone sans voir Jérusalem. Pourtant, il avait cette aspiration de retourner chez lui. Une aspiration qui ne sera jamais exaucée. Nous nous sommes assurés, même si nous mourons aujourd'hui, d'être auprès du Père. Et c'est un privilège. En dernier lieu, la fidélité qui honore résulte souvent dans la persécution. Souvent. Il n'y a qu'à lire les versets 3 à 5. Par ruse, ceux qui voulaient nuire à Daniel ont fait promulguer une loi pour le piéger. Et ensuite, au verset 11, Daniel est en train de prier et les hommes débarquent chez lui, sans être invités, hein, excusez-moi, mais quand même. Tout ça pour le surprendre en train de prier à son Dieu. Tout ça pour pouvoir l'accuser auprès du roi. Mais ce n'est pas tout. La raison principale pour laquelle les adversaires de Daniel veulent sa mort, on le voit au verset 13. Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi, « Daniel, l'un des captifs de Juda, n'a tenu aucun compte de toi. » 70 ans après son exil, malgré ses qualités, malgré le bien qu'il fait au pays de Babylone, au royaume de Babylone, Daniel reste à leurs yeux l'un des captifs de Juda. Ce n'est pas l'un de nôtres, c'est un étranger. Et donc, on ne peut décemment pas l'accepter à la tête de notre pays. Ça veut dire quoi? Un étranger qui gouvernerait Babylone? Pas du tout. Insupportable, inacceptable. On a souvent vu Daniel comme un type du Christ, une figure du Sauveur. Et pour cause, Christ avait tout bon lui aussi. C'était un homme sans péché qui faisait du bien partout où il passait. Pourtant, les responsables juifs ne l'aimaient pas. Pire, ils cherchaient constamment à le faire mourir. Et la triste réalité, c'est qu'ils y sont parvenus. Ils ont comploté contre Christ. Et Pilate et Anne, d'ennemis qu'ils étaient, ils sont devenus amis pour faire tomber le Seigneur. Ils ont obtenu sa condamnation auprès de Pilate. Ils l'ont fait crucifier sur une croix, alors qu'il n'avait rien fait. Mais dans cette triste réalité, il y a une bonne nouvelle. Jésus a accepté ce triste sort pour que nous, pour que nous ne puissions pas nous retrouver à la place que nous méritions, cloués sur une croix. S'il a accepté son sort, c'est pour que nous ne mourions pas, mais que nous ayons une vie d'abondance. Donc, il nous invite à le suivre, à l'imiter dans le bien qu'il fait autour de lui. Il nous invite à faire comme Daniel dans sa fonction auprès du roi, un roi païen dans un pays qui n'est pas le sien. Il nous invite à la fidélité. Mais attention, comme Daniel, le Seigneur nous prévient. Il y aura de la persécution. Ceux qui veulent le suivre souffriront également. C'est ce qu'il dit. Paul le disait à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 12. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Est-ce que vous voulez encore être chrétien après avoir entendu ça? Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ, ils seront persécutés. Nous sommes, nous, croyants, des pèlerins sur terre. Nous sommes comme des exilés ici-bas. À l'image de Daniel, à Babylone, nous sommes des étrangers sur terre. Et vous savez quoi? Le monde ne nous aime pas. Le monde n'aime pas tout ce qui peut braquer le projecteur sur son péché, sur la distance qui le sépare entre son Créateur et lui. Le monde ne nous aime pas. Et c'est pourquoi, comme l'ont fait les satrapes avec Daniel, les gens du monde cherchent à nous nuire. Ce qui est normal. C'est la vie normale du disciple. Vous savez quoi? Le Seigneur nous appelle, malgré tout, à la fidélité. Comme Daniel, il nous appelle à la persévérance. Et mon encouragement à nous, c'est de faire exactement ça. À être fidèle dans tout. Que nous ne puissions pas être trouvés en défaut dans quoi que ce soit. Et que même si on pointe le doigt sur nous, qu'on dise de nous, mais on ne trouverait rien, il est fidèle partout. Il est fidèle dans son rôle de père, il est fidèle, ou elle est fidèle dans son rôle de mère. Ils, elles, sont fidèles dans leur couple, ils, elles, sont fidèles dans leur ministère à l'Église. Ils, elles, sont fidèles dans leur boulot, au travail, partout. Ils font bien leur travail, ces chrétiens. J'aimerais bien avoir 10 chrétiens comme employés. J'aimerais bien avoir 10 enseignants chrétiens, si tous sont fidèles de la sorte. J'aimerais avoir 10 chauffeurs de taxi sur la route, si tous respectent le code de la route aussi bien. J'aimerais avoir 10 femmes de ménage dans mon entreprise, si tous nettoient aussi bien. Soyons fidèles et persévérons, comme le Seigneur nous en appelle. Amen.